podcasts d'AFDS.tv, aux frontières des séries. Une émission de Sarah Sepulcre et Alexandre Marlier. Les dossiers d'AFDS.tv, Alexandre Marlier.
Série culte des années 60, Les Envahisseurs a marqué de son empreinte indélébile l'histoire de la télévision. Cette série américaine de deux saisons, créée par Larry Cohen et produite par Quinn Martin, a été diffusée entre 1967 et 1968 sur le réseau ABC. En France, elle fera ses premiers pas sur les ondes de l'ORTF et a même été rediffusée en 2004 sur Paris Première. L'histoire est archi connue, David Vincent, architecte de sa fonction, cherche un raccourci avec sa voiture alors qu'il roule depuis des heures en pleine nuit, mort de fatigue. Il décide de s'arrêter quelques instants pour se reposer. C'est cette nuit-là qu'il verra une soucoupe volante. Il comprend alors que les extraterrestres sont désormais parmi nous. Il n'aura de cesse de tenter d'alerter l'opinion publique pour prévenir que le cauchemar a commencé. Mais il découvrira petit à petit à ses dépens que ces êtres venus d'ailleurs sont déjà bien implantés. La paranoïa peut commencer. Chevelure blonde et abondante, regard bleu d'acier, symbole de la virilité, non ce n'est pas Roy Thinnes, le célèbre interprète de David Vincent, mais bien Nathanaël Picasse qui va nous parler de cette série. Bonjour.
Bonjour.
Et pour nous accompagner aujourd'hui, Cindy Willem.
Bonjour.
Et Sarah Sepulcre.
Bonjour.
Alors Nat, faut-il avoir l'auriculaire dressé comme un i pour apprécier encore Les Envahisseurs?
Non. C'est pas nécessaire d'avoir le petit doigt effectivement dressé pour apprécier la série.
De toute façon, alors, on n'apprécie plus.
Pourquoi? Pourquoi est-ce que je parle d'auriculaire évidemment? C'est parce que c'est une des marques de fabrique de la série, une série culte s'il en est. Et donc je voulais faire un petit tour de table d'abord pour voir un peu ici les petites marques de fabrique de la série qui ont marqué vos esprits.
Moi, je dirais la paranoïa.
Personnellement, j'ai jamais vu la série. Je me souviens juste d'une image ou l'autre.
Le générique, peut-être. Ça te dit quelque chose?
Même pas. La soucoupe volante, je dirais, derrière le personnage avec un costume des années 60. Enfin, j'étais pas née, donc je pense que c'est pour ça que je connais pas trop.
Moi, je dirais, c'est plutôt au niveau du générique avec la fameuse voix off dont on a parlé juste à l'instant, avec le texte toujours récurrent et ce raccourci que jamais il ne trouva et cette musique très stridente.
Effectivement, c'est vrai que ça a vraiment marqué l'histoire de la télévision, ce générique. Déjà, très particulier.
Avec très cette, psychose.
Très psychose, avec cette musique tonitruante et très stridente qui contribue à cette ambiance un peu malsaine. Et ce qui est bon de noter, c'est que c'est une série qui, pourtant, à l'époque, n'a pas connu un énorme succès. Elle faisait des résultats corrects au niveau des audiences, mais c'était pas un immense succès. Mais par contre, ça a traversé les époques, ne serait-ce que grâce à la qualité de la série. Et donc là, ça remet un petit peu en perspective les séries qu'on déclare cultes maintenant, à partir du moment où elles ont un petit peu de succès. J'ai envie de dire maintenant aux gens, attendez, il faut voir dans 30 ans et on pourra dire si elle était effectivement culte. Donc non, Prison Break ne sera pas une série culte. Non, Desperate Housewives ne sera pas une série culte. Je vous l'annonce déjà.
Je ne sais pas pourquoi je pensais à ces deux-là aussi.
Exactement. Effectivement, il y a des signes très distinctifs dans cette série, notamment les signes distinctifs pour reconnaître les extraterrestres. Ce petit doigt qui n'arrive pas à plier, qui est toujours relevé. Pourquoi ce petit doigt? Il faut savoir qu'au départ, ça devait être un œil dans la main qui apparaissait de temps en temps. Mais l'effet était jugé par les producteurs de la série un petit peu trop comique et puis surtout très onéreux à mettre en place. Il faut se rappeler qu'on est dans les années 1967.
Un effet qui avait d'ailleurs déjà été mis en place dans un épisode de la quatrième dimension. Mais évidemment, avec le noir et blanc, ça rendait quand même vachement mieux qu'avec les épisodes en couleur.
Ils ont choisi donc de mettre ce petit doigt en l'air, facile à réaliser évidemment, et puis qui contribue à ce phénomène de paranoïa, comme tu dis Sarah, puisque effectivement, quand on regarde chaque personnage de la série, on essaye, dès qu'on voit sa main, de voir s'il a le petit doigt qui ne réagit pas comme les autres. Il faut savoir aussi qu'il y a d'autres signes distinctifs pour les extraterrestres, mais c'est que le fait qu'ils ont l'air quand même souvent sans émotion, ils sont plutôt stoïques, ils n'ont pas de pouls, ils ne respirent pas, bon ça c'est difficile à voir par nous-mêmes, mais en tout cas on nous l'explique, et puis ils ont la fâcheuse tendance à disparaître dans un halo rouge quand ils se font tuer et de disparaître complètement, c'est-à-dire non seulement le corps mais les vêtements, ceux qu'ils tiennent dans la main, tout disparaît. On avait parlé évidemment du générique culte et ce climat de paranoïa et de désespoir qui est vraiment très typique de la série. Est-ce que cette série mérite son statut? Moi je voulais d'abord parler un peu de la genèse de la série, comment est-ce qu'elle est née. Il faut savoir que c'est le producteur célèbre, Quinn Martin, à qui l'on doit Les Incorruptibles, Les rues de San Francisco et Le Fugitif, qui est à l'origine de cette série. Et justement, en fait, je parle du Fugitif, mais pas par hasard, puisqu'il cherchait justement à remplacer Le Fugitif. On arrivait à la fin de la série et il avait besoin d'un nouveau succès. Il s'associe pour cela avec Larry Cohen, qui est connu notamment pour être omnubilé par les extraterrestres. C'est un scénariste et réalisateur qui fera d'ailleurs nombreux films d'horreur par la suite, notamment un film qui va marquer aussi pas mal d'esprit, c'est It's Alive, avec l'histoire d'un bébé tueur. Donc voilà, c'est quelqu'un qui aime beaucoup tout ce qui est le climat de paranoïa, de désespoir. Il faut savoir d'ailleurs que le producteur Quinn Martin et le scénariste Larry Cohen ne vont pas souvent s'entendre, puisque Larry Cohen quittera d'ailleurs rapidement la série à cause des désaccords qu'il a avec Quinn Martin, notamment avec le choix de Roy Thinnes dans le rôle de David Vincent. Larry Cohen, en fait, comment est-ce qu'il a l'idée de cette série ? Il va croiser en fait deux séries précédente qu'il avait fait, Branded. C'est l'histoire d'un soldat qui doit répondre de ses actes devant la cour martiale pour cause de lâcheté, et il traverse tout l'ouest des États-Unis pour trouver des personnes qui peuvent témoigner de son courage. Et là, on retrouve un peu effectivement la quête de David Vincent de traverser tous les États-Unis pour trouver des preuves que ces extraterrestres sont présents. Et l'autre série, c'est Cornet Blue. C'est l'histoire d'un homme qui souffre d'amnésie et qui est suivi par un groupe de personnes puissantes. Et la seule chose dont il se souvient, c'est Cornet Blue. Et là aussi, on peut voir effectivement la similitude avec la série. Et bien sûr, il y a aussi le climat de l'époque. Et c'est une époque qui fait la part belle aux films d'extraterrestres, notamment à l'invasion des profanateurs de sépultures, Enemy from Space. Donc il y a vraiment des histoires paranoïaques d'extraterrestres qui ressemblent à des humains d'ailleurs, qui vivent parmi nous et qui sont prêts à nous renverser. C'est un climat qui est très présent aux États-Unis à ce moment-là.
Puis il y a le climat de la guerre froide.
C'est exactement là où je voulais en venir. C'est qu'il y a le climat de la guerre froide. Et je crois que ce n'est pas par hasard que les extraterrestres disparaissent dans un halo rouge, rouge communiste. Je pense que le parallèle est assez évident. Et effectivement, Larry Cohen va beaucoup jouer là-dessus, notamment parce qu'à l'époque, il faut savoir au niveau des scénaristes et au niveau du cinéma qu'on est en train de faire des listes noires pour les réalisateurs qu'on soupçonne d'idées communistes. Et effectivement, on a cette impression que les communistes ont infiltré certains milieux, notamment du cinéma évidemment. Donc Les Envahisseurs est vraiment le produit de toutes ces influences. La série va bien refléter d'ailleurs son époque.
Mais enfin, qu'est-ce que vous voulez que je croie ? Vous commencez par me dire que toute l'histoire sortait tout droit de votre imagination et vous me parlez maintenant de soucoupes volantes et de lavage de cerveau.
Ce que je vous demande, c'est de me laisser déposer.
Allez-y, mais je ne vous le conseille pas. Après votre coup de téléphone, je leur ai dit que le témoin venait de se récuser par manque de preuves. Je vous préviens que si vous leur racontez votre voyage en soucoupe volante sur Vénus, vous récolterez un bel éclat de rire.
Et qu'est-ce qui vous empêche de faire une perquisition ? Vous trouverez sûrement des preuves.
Je n'ai pas attendu que vous me le disiez. Après votre coup de fil de l'hôpital, mes hommes ont fouillé la maison. Ils n'ont rien trouvé du tout. Probablement parce que vous aviez trouvé votre histoire dans le fond d'une bouteille. Entrez.
Si vous n'avez pas besoin de moi, je vais aller classer les papiers du projet Faucon, mon capitaine.
Oui, allez. Et dépêchez-vous.
Eh bien, je crois que nous n'avons plus grand-chose à nous dire, monsieur Vincent, à moins que vous ayez oublié un détail.
Le sergent Rudel. Rudel était lui aussi à bord du vaisseau spatial.
Le sergent Rudel ?
J'en suis certain.
Allez-vous-en. Donnez-moi la sécurité. Allô, ici le capitaine Ross. Je vais vous demander un contrôle. Rudel. Le sergent Rudel. Oui, je sais, mais je voudrais que vous examiniez à nouveau son dossier. Il me faut tout ce qu'il concerne. Son enfance, ses parents, son entourage, absolument tout.
Un voyage vers un monde de cauchemars. Une commission d'enquête qui n'aboutit à rien. Une autre défaite. Encore un espoir perdu pour David Vincent. Mais peut-être cet espoir renaîtra-t-il de ses cendres.
Regardez la série aujourd'hui, avec le regard aujourd'hui de personnes gavées de Avatar et autres séries à très grand budget, avec d'énormes effets spéciaux et d'énormes moyens, effectivement, ça fait un petit peu mal. Ne serait-ce qu'au niveau de l'image, évidemment. Quoique je trouve que la série est plutôt bien filmée dans l'ensemble, mais évidemment, ça a vieilli. Mais c'est au niveau du son que c'est le plus flagrant, notamment avec ces bruitages qui sont extrêmement présents. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'environnement sonore, si vous voulez. C'est relativement silencieux. Et puis, d'un coup, on a ces pas très fort, on a l'ouverture d'une porte, hein, l'ouverture d'un portefeuille qui prend tout d'un coup une dimension énorme alors que ça ne devrait pas. Et effectivement, quand on regarde la série, c'est un petit peu ennuyeux. On a cette musique aussi qui est très stridente, omniprésente, qui surligne à chaque fois l'action. Bien sûr, elle contribue à renforcer ce climat de peur, de paranoïa, qui fait très Hitchcock, évidemment, mais qui est des fois très énervante, avec notamment des scènes où on n'a pas l'impression qu'il est nécessaire de la musique, et tout d'un coup, elle arrive, elle est très présente, et on voit qu'elle veut meubler ce qui se passe, mais bon. Et il y a aussi, bien sûr, l'utilisation de la voix off, extrêmement explicative, notamment dans le générique. Avant le générique, il y a aussi une petite explication de pourquoi est-ce que David Vincent se rend à un endroit particulier, parce qu'il a entendu parler que quelqu'un avait peut-être vu un extraterrestre. Et puis à la fin de l'épisode, on a aussi cette voix off qui conclut ça de manière souvent très moralisatrice d'ailleurs. Et là, on retrouve un petit peu la voix off de Desperate Housewives, comme quoi donc ils n'ont absolument rien inventé. Mais là où on pouvait avoir le côté moralisateur dans Les Envahisseurs, on pardonne, c'était il y a 30 ans, presque 40 ans. Dans Desperate Housewives, c'est tout de suite beaucoup moins pardonnable. Il y a les effets spéciaux aussi. C'est un petit budget, on pardonne, mais évidemment, maintenant, ça fait un petit peu cheap, même beaucoup cheap, mais ça participe, bien sûr, au charme de la série actuellement. Et il y a cette narration qui est très lente, qui ne connaît pas l'ellipse. Combien de fois on voit David Vincent s'arrêter avec un bus, voir toutes les personnes sortir du bus, David Vincent sortir du bus, prendre sa valise, aller à un endroit et arriver à un hôtel. Finalement, maintenant, on a envie de dire, dans la série, on le ferait tout de suite arriver à l'hôtel, on se doute qu'il est venu en bus, voilà quoi. Donc c'est le genre d'événement qui fait que, oh, par pitié, avancez quoi. Bien sûr aussi, c'est très marqué par son époque, hein, évidemment, bon voilà, c'est tout à fait pardonnable, je dirais. Et puis il y a tous ces petits éléments qui aujourd'hui prêtent à sourire. Quand David Vincent recherche une preuve pour montrer l'existence des extraterrestres, une photo pour lui est une preuve. Il arrive à avoir une photo un moment, mais il est heureux. Et c'est vrai que quand on regarde ça avec le regard de l'époque, on se dit, bah oui, mais t'as une photo, mais avec tous les trucages qui sont possibles actuellement, personne va te croire. Il y a aussi l'utilisation des téléphones. Il n'y a pas de téléphone portable, évidemment, en 1967. Et donc, dès qu'il y a le moindre souci, il faut arriver à une cabine téléphonique, mettre de l'argent, être en contact avec l'hôtesse qui est de l'autre côté, qui vient nous brancher avec quelqu'un d'autre. Ça prend un temps fou. Et c'est très énervant avec le regard actuel, parce qu'on se dit, mais non, il doit avoir beaucoup plus facile. Je veux dire, si Twitter existait à l'époque, David Vincent aurait eu beaucoup moins de problèmes, par exemple.
Oui, c'est d'autant plus chiant qu'en plus, on voit tout le processus. Il arrive à la cabine, il cherche sous, il met le sous, machin. Oui, voilà. Il n'y a pas d'ellipse, comme tu disais. Voilà.
Pas de bol, c'est la seule cabine, elle est en panne.
Et oui, c'est d'autant plus ennuyeux quand, par exemple, ils sont dans une usine et qu'il y a les extraterrestres qui sont en train de faire des expériences et qu'il faut trouver un téléphone dans l'usine. Enfin, je veux dire, c'est un peu embêtant, évidemment. Et c'est vrai que là, on se dit quand même qu'en 30 ans, 40 ans, on a énormément évolué au niveau de l'information, au niveau de la diffusion de l'information. Et je pense qu'on ne se rend même pas encore compte maintenant de l'importance que les téléphones portables ont pris maintenant et Internet. C'est une série qui ne pourrait pas exister maintenant, ou en tout cas pas dans la forme de l'époque, parce que évidemment, il peut avoir accès à tout le monde et diffuser l'information très facilement.
Mais je pense aussi que la série fait un peu ennuyeuse aussi parce que le rythme à la télévision est de plus en plus rapide, alors que avant, les séries étaient beaucoup plus lentes.
Plus posées, et puis au niveau des dialogues, il y avait des dialogues beaucoup plus lents et explicatifs, ce qu'il n'y a plus maintenant parce que les gens ont l'habitude, connaissent les codes, et ça va beaucoup plus vite, évidemment, bien sûr.
Oui, puis c'était encore très théâtral, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas se couper ou s'interrompre, et donc on a des dialogues qui sont effectivement très long parce que la personne débite tout ce qu'elle doit débiter, puis c'est un autre qui intervient, etc.
Voilà, et puis il y a ce côté aussi David Vincent, quand on le voit, franchement, des fois on a envie de lui foutre des baffes parce que il fait des choses qui ne nous semblent pas très logiques avec le regard de maintenant. Déjà, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas dans une grande métropole, histoire de se plonger dans la masse, disparaître à la limite, et puis recueillir ses preuves, il aurait moyen, et effectivement toucher la plupart des gens. Non, il va toujours dans des petits villages paumé, il rencontre 3-4 personnes, systématiquement une de ces 3-4 personnes est déjà un extraterrestre, et il hurle à qui veut l'entendre qu'il y a des extraterrestres, etc. et tout. Il va devenir un petit peu plus méfiant au fur et à mesure de la série, mais au départ, il va toujours s'acoquiner avec la personne qu'il faut pas. Donc c'est un petit peu agaçant en disant, t'es un petit peu bête. Surtout que, on a envie de dire, maintenant, on mettrait rapidement dans un asile de fous, on lui foutrait du Xanax, et voilà. Donc c'est vrai que c'est une série qui a très fort vieilli, en tout cas au niveau de sa forme.
Les Envahisseurs. Ces êtres étranges venus d'une autre planète. Leur destination, la Terre. Leur but, en faire leur univers. David Vincent, lui, les a vus. Pour lui, tout a commencé une nuit le long d'une route de campagne, alors qu'il cherchait un raccourci qu'il ne trouva jamais. Cela a commencé par une auberge abandonnée. Par un homme que le manque de sommeil avait rendu trop las pour continuer sa route. Cela a commencé par l'atterrissage d'un vaisseau spatial venu d'une autre galaxie. Maintenant, il sait que les envahisseurs sont là, qu'ils ont pris une forme humaine. Il sait qu'il lui faut convaincre un monde incrédule que le cauchemar a déjà commencé. David Vincent a reçu un mystérieux coup de téléphone d'un inconnu qui lui donne rendez-vous dans un motel dont il n'a jamais entendu parler, dans un endroit désertique où il n'est jamais allé. Il a accepté parce que le message parlait d'envahisseurs. Et l'homme qu'il a appelé a disparu. Le motel, dont il n'a jamais entendu parler, lui semble menaçant. Mais cet endroit désertique où il n'est jamais allé lui donnera peut-être la réponse qu'il attend.
On a beaucoup parlé de la forme de la série. Maintenant, le contenu reste très très intéressant et je pense que c'est pour ça que la série est devenue culte et qu'elle continue à être même aujourd'hui à être pertinente. Et je pense que ça explique aussi pourquoi est-ce que ça n'a pas eu de succès à l'époque, parce que outre le côté envahisseur, communiste, guerre froide, c'est surtout une critique de la société américaine en fait cette série. Ce n'est pas un hasard que David Vincent se rend dans les petites zones isolées des États-Unis. On y trouve souvent des familles décomposées, des gens au bord de l'implosion, c'est des petits villages à moitié fuis en fait par la population. On y trouve aussi des zones industrielles vide, c'est souvent des usines sans plus personne. On est vraiment dans un monde en décrépitude, on est dans un monde d'après-guerre, on est dans un monde qui n'a plus confiance en lui, qui se défait complètement, un monde en déliquescence en fait. Et puis, bon, bien sûr, il y a cette peur de l'autre, des communistes, mais il y a des fois quand on voit des extraterrestres avec leur côté très calme, très posé, on se dit, bah, tiens, peut-être que finalement ce serait pas si mal. Parce que vu notre monde actuel, finalement, c'est peut-être pas si mal ce qu'ils vont nous proposer. Donc, je pense que la société américaine, la manière dont elle était dépeinte, en tout cas, ça n'a pas dû plaire au public, parce qu'aussi, les personnages sont la plupart du temps lâches, ils ont des attitudes plutôt méprisables, c'est des hommes qui essayent de monter en grade et qui vont écraser les autres, et puis qui vont se rendre compte, il va avoir une prise de conscience, heureusement, grâce à David Vincent. C'est pas des gens qui ressortent sortis vraiment de la série.
Ce qui est assez amusant, c'est que cette série a relativement bien marché ailleurs, sur le marché étranger, mais qu'aux États-Unis, effectivement, ça n'a pas marché du tonnerre.
D'ailleurs, après la deuxième saison, ils ont arrêté brutalement la série, notamment parce que Queen Martin était en désaccord total avec ABC et qu'ils ont décidé de terminer. Mais normalement, elle pouvait encore se continuer. Ce qui fait qu'on n'a pas de fin à la série. Et je pense que c'est ce qui participe au fait, d'ailleurs, qu'elle est devenue culte. C'est parce que la fin reste ouverte. Ils ont effectivement essayé de faire un téléfilm bien des années plus tard. Un horrible téléfilm, d'ailleurs. Roy Thinnes reprenait son rôle de David Vincent et passait le relais à une autre personne pour continuer la lutte contre les envahisseurs. Ce genre de téléfilm, d'ailleurs, n'était vraiment pas très nécessaire.
Il faut savoir, d'ailleurs, qu'à l'époque de l'annulation de la série, Roy Thinnes a appris l'annulation de la série par la presse.
Et il l'a appris alors qu'il est encore en train de tourner le dernier épisode, il était en plein désert, et voilà.
Ça représente bien l'ambiance qu'il devait y avoir entre la production et la chaîne à l'époque.
Ça, c'est sûr. Et c'est une série qui fait écho, je trouve, encore aujourd'hui au niveau de son contenu. Et là, on se rend compte que rien n'a changé. Au niveau des États-Unis, je crois que même au niveau mondial, on a cette peur. Les communistes ont fait la place maintenant terroristes, on a assez peur de ces personnes qui sont infiltrées parmi nous, qui se comportent comme nous et qui tout d'un coup pètent un plomb, se font sauter des tours. Je pense que le parallèle avec les tours du 11 septembre est assez évident. On a cette peur de l'autre, évidemment. On a ce climat de paranoïa qui est extrêmement marqué, je pense, avec la peur du terroriste. Et puis on a aussi ces familles décomposées qui se perdent. On a ce climat aussi d'économie qui part complètement en vrille avec la crise qu'on a connue et qui fait que toutes ces usines se vident un peu partout et qui fait vraiment écho avec ce que dépeint la série.
Ta conclusion sur la série?
C'est une série sur laquelle il faut s'accrocher. En tout cas, ne pas s'arrêter à la forme. Quand on regarde ça la première fois, c'est effectivement un peu rébarbatif. J'ai vraiment dû regarder les 3-4 premiers épisodes en m'accrochant, en ayant les yeux qui se ferment à moitié, et en disant, allez, continue, il y a certainement quelque chose. Et puis, quand on commence à regarder le fond et en voyant la critique qu'il y a derrière, on s'est dit qu'il y a énormément de choses intéressantes et qui expliquent pourquoi la série a survécu à cette annulation et qu'elle est restée maintenant dans l'inconscient collectif, parce qu'elle dit vraiment quelque chose sur la société. C'est un vrai miroir des États-Unis et de la société de l'époque plus généralement, et qui fait vraiment écho maintenant, aujourd'hui en fait, et qui est une sorte de sonnette d'alarme, je pense, de notre société actuellement.
Retrouvez Aux frontières des séries sur le web www.afds.tv.